Passant par la région parisienne, conditions météo peu favorables à la fête de la musique dont c'est ce soir la 31e édition. Les festivités sont d'ailleurs déjà annulées à Strasbourg ou à Mulhouse notamment. 15h et bientôt 4 minutes sur Inter. Daniel Mermet tout de suite et là-bas si j'y suis.
Il y a un mois tout juste, notre Claude, le philosophe raisonneur patenté de là-bas si j'y suis, profitait du poste pour souhaiter bon anniversaire à son Léonard de fils. Moi qui n'ai pas autant d'heures de tchatch au compteur de là-bas si j'y suis, je me prends à espérer que grâce à mon léger accent du midi, et surtout grâce à mon Léo tout court, qui a juste 20 ans pile aujourd'hui, jour de l'été de la fête de la musique, je peux dire dans le poste, bon anniversaire mon Léo.
Bonjour, je m'appelle Sarah, c'est une toute petite expérience que je souhaitais partager, j'ai choisi de le faire en mon nom, donc je ne suis pas du tout anonyme, avec la conscience d'avoir derrière moi, de n'avoir que quelques mois d'abstinence alcoolique, alors quelques mois aussi dérisoires que miraculeux, et puis fragiles sur tout ça, il ne faut jamais l'oublier. Pourquoi j'ai choisi le calme? Pourquoi je le défends aujourd'hui? Parce que justement, j'ai pu choisir, comprendre, et puis tenter de me libérer. Et croyez-moi, ces trois verbes, je les conjugue encore tous les jours. Le calme m'a donné évidemment pas mal d'outils utiles à cette réflexion. Un de ces outils, c'est le calme, justement. Alors, l'absence totale pendant le séjour d'activités autres que celles qui contribuent à la guérison, je pense un petit peu aux salles de sport, à la télé, etc. Parce qu'on pense souvent qu'il faut absolument occuper les esprits. Et moi, je pense qu'il faut leur rendre, justement, leur disponibilité pour qu'ils retrouvent ce qu'on peut appeler une forme de clairvoyance, de liberté. Alors mettre le calme en danger, c'est priver pas mal de monde, pas mal de ceux qui veulent s'en sortir, de la possibilité de prendre conscience, de se libérer. Mais donner de l'argent pour libérer l'humain, c'est peut-être dangereux à réfléchir.
Bonjour, je m'appelle Michel et je suis vigneron dans le Muscadet. Je viens d'écouter l'émission sur l'alcoolisme et ce qui m'a intéressé, c'est que vous avez bien placé l'alcoolisme comme une maladie. En effet, le vin que je produis est un produit culturel, c'est un produit qui doit procurer du plaisir et en donner aux gens qui en l'offrent. Cela devient une drogue et donc une maladie quand les gens sont dépendants pour des raisons maladives, c'est-à-dire que soit ils ont une perte de confiance en eux, on l'a bien vu, soit une rupture, qu'elle soit de travail sentimental, qui est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de quelque chose qui était sous-jacent en eux. Donc merci d'avoir fait cette différence entre l'alcoolisme maladie et le plaisir que peut procurer la vie.
Bonjour Daniel et bonjour à toute l'équipe. J'ai bien entendu aujourd'hui la super émission sur Calme à Cabri. Voilà, je suis infirmière psy dans un hôpital général du sud de la France, soumis aux diktats de l'ARS et à la tarification d'activité. Ce nouveau mode de tarification engendre une mauvaise qualité du soin, une démotivation des personnels, des réhospitalisations de patients en psychiatrie, car ils sortent avant d'être stabilisés et sont réhospitalisés dans les semaines qui suivent. Mais le compteur de la DMS, ou la durée moyenne de séjour, repart à zéro. Enfin, voilà quelques exemples du résultat d'une gestion de l'hôpital entreprise. Je préfère ne pas évoquer l'augmentation des suicides de patients, les départs multiples du personnel, le malaise qui règne dans les unités. Voilà, alors je suis de tout cœur avec mes collègues de Cabri, et, car des structures de ce type qui prennent en compte la personne comme un sujet et non comme une unité de production ou un ensemble d'actes se font extrêmement rares. Je vous demande de tenir bon et on est de tout cœur avec vous. Voilà, j'espère que vous allez réussir à maintenir cette structure car on en a vraiment besoin. On a besoin de lieux comme ça, de lieux humains, de lieux conviviaux, de lieux de soins. Au revoir.
Ben bonjour, mais vous avez tout dit, hein, sur ces messages du répondeur aujourd'hui. Vous avez tout dit sur le calme, centre d'action et de libération des malades éthyliques aujourd'hui, deuxième partie. Je vous rappelle l'histoire, on a reçu il y a quelques semaines un message d'un des animateurs de ce centre en disant « on va mourir, c'est terrible, on nous en veut », comme vient de l'expliquer cette praticienne. Et alors donc voilà, Charlotte Perry est allée là-bas à Cabris. J'espère que je prononce bien parce qu'on m'a dit « Ah non, on ne dit pas Cabris, on dit... » On s'est fixé sur la prononciation du maire de Cabris qui dit Cabris. Donc on dira Cabris, village de 1500 habitants en Provence, donc qui comporte, c'est à 7 km de Grasse, et qui comporte ce centre d'action et de libération des malades éthyliques avec une thérapie particulière, ancienne, ça dure depuis 1981, je crois, et ça donne certains résultats plutôt bons, et surtout, c'est une technique d'approche, on va dire humaniste, mais enfin, le mot est tellement, n'a plus beaucoup de signification, mais allez voir comme il en prend au fur et à mesure de l'écoute. Et des patients qui viennent passer là 29 jours, et des soignants qui ont accumulé une expérience, parce qu'il y a la science, il y a les théories, et puis il y a la pratique, il y a toute cette accumulation de savoir qui se transmettent comme ça, mais qui ne se mettent pas toujours en théorie ni en concept, et qui constituent probablement la qualité et l'intérêt irremplaçable de ce centre, puisque c'est pas seulement le centre, c'est pas seulement les soignants, c'est pas seulement cette ancienne auberge transformée donc en centre de soins, mais c'est aussi le village. Vous allez voir comment les patients qui viennent là, les curistes, je ne sais pas trop comment les appeler, vont au village, et le village est complètement concerné, et le bistrot du coin, vous allez entendre, se sent lui aussi un peu thérapeute, un peu dans ce coup pour essayer à ceux qui sont dans la prison, au fond du trou de l'alcoolisme, de remonter, et peut-être parfois, assez souvent dans le cas présent, de s'en sortir. Vous avez compris, c'est notre sujet du jour. D'en vivre, il y a ivre, un reportage de Charlotte Perry. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Salut à tous les AMG, c'est Kevin de Rennes. Je voulais vous prévenir qu'on a organisé un grand tournoi de foot solidaire en faveur de la Palestine le dimanche 24 juin à partir de 9h au stade du Berry à Villejean. Donc tous les fonds seront reversés à une école de sport dans un camp de réfugiés à Askar en Palestine. Donc venez nombreux parce que c'est toujours mieux de venir à un tournoi de foot pour la Palestine que d'aller voir le film de BHL. Salut.
Bonjour, j'appelle pour donner un écho à une triste nouvelle. Le 6 juin dernier, Nabil Al-Rahé, directeur artistique du Théâtre de la Liberté de Jénine, a été arrêté par l'armée israélienne. À 3h30 du matin, des soldats sont entrés chez lui et l'ont emmené sans explication. Ce n'est que le lendemain que la famille a appris qu'il se trouvait au centre de détention de Djalamé, où les interrogatoires se déroulent souvent dans des conditions inhumaines. Dans son récit de l'enlèvement publié sur le site du théâtre, la femme de Nabil conclut par ces mots « Nous pensions tous qu'il reviendrait vite ». Nabil n'est toujours pas réapparu. Cet événement n'est malheureusement pas le premier pour l'équipe du Théâtre de la Liberté. Beaucoup d'associations se mobilisent, mais la presse française n'a que très peu relayé l'information. Quelle violence peut être pire que ce silence ?
Le week-end du 22 au 24 juin se tient la première édition de la Foire à l'autogestion à Paris et à Montreuil. Comme son nom l'indique, ce sera un événement festif et populaire, mais pas seulement. Plus de 70 associations, syndicats, organisations politiques et même des coopératives se sont associées pour mettre sur pied cet événement. On y débattra beaucoup de refaire le monde. L'alternative au capitalisme, elle existe, et nous voulons remettre au goût du jour cette vieille idée toujours neuve, l'autogestion. Donc tout le programme et les rendez-vous sont consultables sur le site web foire-autogestion.org. Merci.
Bonjour Daniel, Bertrand l'appareil, on se connaît, guitariste et chanteur de Brassens, côte à côte de Belle-Île-en-Mer. Et je fais une soirée dans un café-relais à La Varenne, dans le Maine-et-Loire, au bout du Maine-et-Loire, juste à côté de la Loire-Atlantique, pas loin de Nantes, samedi 23 juin. Le cabaret s'appelle le Matelem.
Bonjour, Pieda, au téléphone. J'aimerais bien que la base, si j'y suis, se penche sur la grève des mineurs, la grande grève des mineurs. Depuis plus de 15 jours, ils luttent pour qu'on ne ferme pas les mines. Castilla y León, Asturias, Aragon. Ma mère est d'un village, d'une commune minière là-bas, de León. Voilà, ils ont besoin de notre solidarité. Je n'ai pas encore d'adresse, de compte bancaire. Je suis en train de remuer ciel et terre ici pour qu'on les aide. Il ne faut pas que les mines ferment. C'est des familles entières, des milliers d'emplois directs et indirects qui sont concernés. J'espère enfin que la BCJC va réagir. C'est l'omerta, les médias n'en parlent pas. Voilà, ils ont besoin de notre solidarité morale, politique et financière. Ciao, ciao, à bientôt.
Il y a un moment donné où c'est trop difficile, où c'est trop dangereux, où on fait rien en fait de sa vie. On ne fait que boire, on va chercher à boire, on boit, on évacue les bouteilles, on va rechercher à boire, on stocke à boire, on les cache, enfin, on ne fait plus que ça, quoi.
Il y en a, ils arrivent à boire à table comme ça, et après s'arrêter, juste pour l'apéro. Mais nous, s'il ne la fallait pas tous les jours, ben, c'était pas bien. Le matin, tu te lèves, même la nuit, tu penses, demain, il faut que j'achète ma bouteille.
Pas pour offrir un dernier verre, non,
non.
Ça remonte à quand tu étais dans ton dernier verre, tu l'as offert quoi ? Ça va, tu te sens bien ?
Oui.
Bon.
Pourquoi l'alcool est aussi séduisant chez les êtres humains ? Pourquoi ça fait 6000 ans qu'on l'utilise et globalement pratiquement sur tous les continents ?
Ça m'a fait connaître des expériences que j'aurais jamais connues autrement que sous alcool. Notamment frôler le danger, vivre à 300 à l'heure, ça, je pourrais plus le refaire et je ne sais pas si je n'avais pas bu, j'aurais pu le faire. Je me rappelle avoir skié au milieu des sapins, complètement ivre, voilà quoi. Hein, parfois c'était les sapins qui m'arrêtaient.
Salut, c'est Daniel Mermez, et là-bas, si j'y suis, avec Charlotte Perry. Dans Vivre, il y a Ivre.
Flight number 2, arriving from New York.
Bon, ici, on se trouve sur la petite place du village de Cabri. On vient de boire un coup, un verre de menthe et d'orgeat.
Glacial.
Un glacial, ça s'appelle.
Je ne connaissais pas, c'est vachement bon.
C'est comment votre prénom ?
C'est Yves.
Et vous avez passé là 3 semaines au calme, c'est ça ?
Ouais, enfin 29 jours, là, ça fera 29 jours mardi, là. Et c'est ce que je disais, que moi je dis qu'il faudrait avoir au moins un calme par département. Je trouve que c'est très bien. Puis on en ressort vraiment nickel. Et ils savent bien nous prendre en main, surtout avec les outils, comme ils disent, les outils psychologiques, les infos. Sur comment que ça se passe à l'intérieur de nous, là, l'estomac, le pancréas, ça fait tout y met tout le tout trac. Je rentrais chez moi, je vais repartir plein pot. Je travaillais dans une association de rénovation de patrimoine et j'en avais discuté avec le directeur. Il m'a dit, t'inquiète pas, va te faire soigner d'abord et après on te reprendra. Tu changeras peut-être d'équipe, mais on te reprendra. Avant, j'étais dans le transport pendant 30 ans. J'ai monté une petite entreprise. Et puis, un jour, il y a un client qui ne m'a pas payé dans les temps, un gros client. Et puis, ça engendrait pas mal de problèmes avec la banque parce qu'on était 6. Donc, j'avais 5 véhicules. Rien que déjà le gasoil tous les jours, c'était oh, au secours. Plus les charges, plus machin, patin. En 6 mois, la boîte, j'avais mis quelques années à la monter. Puis, en 6 mois, elle était pliée. Au départ, je buvais normalement, c'est-à-dire l'alcool festif. C'est-à-dire ou en boîte ou de temps en temps je suis amis sur l'apéro, mais c'est tout. Hein. Ça n'allait pas plus loin. Et après, c'est souvent, il y a un élément déclencheur qui fait qu'on plonge de plus en plus. Et puis si on n'est pas aidé ou si on n'appelle pas au secours tout de suite, plus ça va, plus on plonge.
Et là, c'était la première cure que vous faisiez au calme ?
Non, c'est la deuxième au calme. J'avais stoppé pendant 6 ou 7 ans, puis un soir, j'étais chez des amis, ils m'avaient invité, des amis que j'avais retrouvés de Nouméa, parce que j'ai fait mon service en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Ils m'ont dit, viens manger à la maison et tout, et puis bon, il y avait des bons petits punchs, et puis ben, je me suis dit, oh, c'est bon, au bout de 5-6 ans, l'alcool, ça ne me fait plus rien, et puis ben, je me suis fait piéger, parce qu'il y a toujours la petite boîte à musique qu'on a dans le crâne, ben, elle s'est remise en route, et puis bam, c'est reparti.
C'est quoi la petite boîte à musique ?
C'est le THP. Le THP, c'est ce qu'on a dans le crâne là derrière, là, qui se remet alcoolisé. Et si je suis revenu une deuxième fois, c'est parce que j'ai eu Il m'arrivait pas mal de pépins, les uns derrière les autres. La perte de ma boîte, tout ça, enfin bon. Puis j'ai replongé là aussi, encore plus fort que la première fois. Je ferai bien gaffe maintenant. Je me suis fait piéger une fois, je ne me ferai pas piéger deux fois. On va être obligé d'y aller parce que là-bas, on va partir en Soma.
Soma, c'est la relaxation, c'est
la
ça?
La relaxation, ouais, ouais, c'est ça.
La petite boîte qu'on a dans la tête. Voilà, c'est ça le problème, c'est la petite boîte qu'on a dans la tête. Et là, dans ce centre de soins, le calme, le centre d'action et de libération des malades éthyliques, eh bien, le but, la stratégie thérapeutique, c'est de parvenir à ce que le patient comprenne son histoire. Non pas subisse des soins ou prenne des soins, suive. Non, c'est qu'il précède. C'est qu'il comprenne sa propre histoire. Comment il en est arrivé là. La boîte là. Comment peut-être l'ouvrir, la boîte qu'on a dans la tête. Enfin, savoir qu'elle est là, qu'elle existe, qu'il y en a une au moins. C'est du boulot, l'air de rien. On n'a pas le temps d'y penser. Ah, la boîte qu'on a dans la tête. Et ben là, on prend le temps d'y penser. On a le 29 jours pour ça, et puis des thérapies, des discussions, des repos, des traitements. Vous allez découvrir ça peu à peu. Et ça donne des bons résultats. Vous savez que la consommation d'alcool en France diminue, on s'en réjouit toujours. Depuis plusieurs décennies, cette consommation réduit en moyenne de 1% par an depuis la fin des années 60. Mais ça reste un énorme problème de santé publique, une préoccupation majeure de santé publique. Les dégâts sont énormes. Selon l'Institut Gustave Roussy, on estime à 45 000 le nombre de décès attribuables à l'alcool chaque année, ce qui en fait la deuxième cause de mortalité évitable dans notre pays après le tabac. Et en moyenne, la consommation excessive d'alcool est à l'origine de 16% des décès masculins, de 3% des décès féminins. La France connaît la plus forte surmortalité masculine liée à l'alcool, de 30% supérieure à la moyenne européenne. Donc une grande affaire de santé publique. Et là, dans ce centre, on a développé des méthodes particulières, originales, dont l'originalité réside aussi dans l'organisation même de ce centre, qui est une SCOT. J'avais jamais entendu parler de ça, d'une SCOT, c'est-à-dire une société coopérative de travailleurs. Hier, les soignants nous ont présenté un peu leur maison, ce calme, et ils nous ont expliqué comment les salaires vont de 1 à 3. C'est-à-dire que le directeur responsable du truc a 3 fois le salaire, 3 fois le SMIC, mais pas davantage. Donc ça, c'est pas pour rien. C'est pas seulement une structure comme ça, voulue et choisie par ceux qui y travaillent. Ça a une conséquence sur les soins. Et puis le choix, le lieu aussi est très important. C'est un très très beau cadre. On a vu hier une vue magnifique sur la Provence, sur la Méditerranée, par temps clair. On voit jusqu'à la Corse. Et puis il y a ce village qui est à côté. Enfin bon, tout va bien, sauf que ce système d'organisation qui offre des soins de qualité avec des résultats reconnus par la Haute Autorité de Santé, eh bien, son avenir est mis en danger par une obligation très coûteuse de mise aux normes, ce qui constitue un coût qui n'est pas supportable économiquement par le calme. Alors ils se battent tous, vous avez entendu les messages sur le répondeur, c'est pas seulement les soignants et ceux qui organisent cette maison, mais c'est ceux qui y sont passés, le village, le maire et tout le monde, et même vous avez vu à travers la France des thérapeutes, des spécialistes qui sont solidaires. Et vous aussi d'ailleurs, parce qu'on l'a donné hier les coordonnées pour la pétition en faveur de ce centre. Je vous la répète, c'est Calme Cabris. Si vous tapez Calme et Cabris, c'est le nom du village, vous trouverez facilement la pétition. Vous avez été 500 ou 600 à signer cette pétition depuis hier. Voilà, l'important, c'est donc, on a compris, de venir comprendre son histoire quand on vient là et de se dire qu'on a quand même quelque part dans la tête une petite boîte. Dans Vivre, il y a Yves, c'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis.
We're gonna have fun. It's a cozy table, isn't it?
And champagne, my dear.
delicious.
You like it? Me.
delicious.
I like it too. Yes, I do like it.
delicious.
Yes, it is. You want some more?
Delicious.
I knew you'd like it. You always.
Delicious.
Oh, have some more. Get the waiter and. Oh, scabadoo.
Bonjour. Je vous dois combien pour le café, s'il vous plaît?
1,40.
Vous travaillez au café sur la place du village de Cabris?
Oui, oui.
C'est comment vos prénoms?
Marisol.
Hélène.
Vous avez appris que le Calme risquait de fermer dans pas longtemps?
Voilà, et on trouve que c'est dommage, parce que ça fait des années que c'est là et ça fait partie du village. Ils prennent des cafés, des jeux, ils font vivre le village. Hein, à l'épicerie, en la boulangerie, partout. Disons que le village est vivant quand ils sont là à l'extérieur, sur les terrasses. C'est l'hiver ici, il n'y a personne. Hein. Ils sont là un mois, donc pendant un mois, ils sont là tous les jours. Après, il y en a d'autres, des nouveaux, et ainsi de suite. Quoi.
Ouais, puis je pense qu'on ne les regarde pas comme dans notre endroit. C'est vrai qu'on est habitué à les voir, donc on a un regard... on les regarde sans arrière-pensée, vu qu'on a toujours vécu avec eux. Ils sont marqués, hein. Ils sont marqués par des années de souffrance. Le fait qu'ils viennent au bar tous les jours fait partie de leur thérapie. Ils sont confrontés tous les jours à la vue de l'alcool, aux tentations. Et nous, on sait très bien qu'on a un rôle important en faisant barrière. Et bien entendu, on ne divulgue jamais quelqu'un qui est venu nous demander de l'alcool auprès de l'établissement. Bon, on sent qu'ils sont en souffrance. Hein, ils ont tendance à combler le manque d'alcool par le tabac. Nous, on a une gestion rigoureuse du tabac à avoir, hein, parce qu'on fournit aussi le village. Et ils auraient tendance à prendre une partie de notre stock. Et par moment, on est obligé de leur refuser la vente en grosse quantité. Donc, et ça fait partie aussi de la thérapie, hein, de savoir contrôler.
Donc vous êtes devenu un maillon de la thérapie
Comme beaucoup d'autres. Hein. Comme beaucoup. Mais c'est normal, ça fait partie du village. C'est une structure qui est intégrée au village. Et c'est pour ça que... Ça se passe bien, ça se passe même très bien. C'est une grosse perte, hein. C'est pas seulement sur le plan financier, mais sur le plan humain. Parce que bon, quelque part, on contribue à la thérapie.
Merci beaucoup.
Ah oui, on est loin de la répression de l'ivresse publique. Hein, dans les bistrots, ça doit toujours être affiché, ça. Répression de l'ivresse publique. Voilà un bistrot, ça doit être affiché d'ailleurs dans le coin de ce bistrot à la Chèvre d'Or, à Cabris, répression de l'ivresse publique. Mais voilà que ceux qui sont derrière le comptoir ont appris beaucoup de choses. Ils font maintenant partie de la thérapie depuis tant que, depuis des années, 80, ça fait 30 ans, ouais, que ces drôles de clients se succèdent pour ne pas boire. Pour ne pas boire, comme Yves qui rentre, lui. Question, le retour vers le centre, le calme.
Ah oui, on part dans le mauvais côté. Au revoir, merci. Mais tout à l'heure, vous avez dit que le premier psychologue, il n'avait pas trouvé le fond de votre problème.
Non, c'est, il m'est arrivé un problème. Il y a 35 ans, c'est une histoire de famille qui était assez douloureuse. Mais la première fois, moi, je l'avais enfoui, cette histoire de famille. C'était pas oublié, c'était une petite case dans ma tête. Mais j'y pensais plus du tout. C'était fini. C'était oublié. Mais il y a une question qui est sans réponse. Pourquoi ils ont fait ça? J'étais avec une amie, et depuis quelques années, puis on voulait avoir des enfants, elle s'est retrouvée enceinte, et moi j'étais en déplacement. Mes parents l'ont appris déjà, ils ont fait la gueule. Pourtant, elle était auxiliaire puricultrice. Et moi, je travaillais dans une boîte de transport qui s'appelle Calberson. On gagnait très très bien notre vie. Bon, et puis elle s'est retrouvée enceinte. Mais moi, je faisais des fois du déplacement. Puis dans mon dos, ben, ils lui ont mis la pression. Et puis ils en ont profité que j'étais parti pour la faire avorter. Mais ils n'ont jamais voulu me dire pourquoi. Mais je sais comment je vais leur faire cracher le morceau. Parce que je les tiens à la gorge. J'en tiens deux à la gorge. C'est pas compliqué, quand mon père va décéder, repasser chez le notaire. Si j'ai pas ma réponse, je signe rien du tout.
Mais auprès de qui vous allez savoir si votre père il est décédé? Et que votre mère elle est décédée?
Auprès de mon frère et ma sœur.
Eux ils savent et vous savez pas?
Oui, ils savent, oui. Surtout ma sœur, celle qui s'occupait de tout. Parce que je l'ai su après par la suite. Que c'était elle qui s'était occupée de tout. Et que tout le monde était d'accord.
Là, on est revenu au calme.
Ouais. Là, je vais te lâcher parce que je vais dans ma chambre pour aller faire la soma parce que va bientôt avoir la cloche. C'est comme ça qu'on a visé des... Quand on va en soma, quand on va en psycho, quand on va en info, il y a toujours une cloche. Alors la soma, c'est une première cloche. On monte dans la chambre, puis la deuxième cloche, silence total.
Là, ils viennent de sonner, pourquoi ?
À chaque fois qu'il y a une activité, la cloche sonne.
Là, c'est quoi comme activité?
Soma.
C'est relaxation. Il faut enlever ses chaussures?
Oui. Enfin, pour nous, oui. Parce que nous, on monte sur les tapis.
Ah! Vous appelez comment?
Moi, je m'appelle Laurent Guillem. Voilà, je suis infirmier au calme depuis 20 ans. C'est une ancienne auberge des années 50. Hein, donc c'est pour ça que finalement, c'est pas une grosse structure. Hein, il y a 46 pensionnaires au maximum. On est en tout une grosse trentaine, j'allais dire, de travailleurs tout compris. Hein. Il y a une salle à manger avec une cheminée, par exemple, hein, pour que l'hiver, justement, il y ait un feu, que ça fasse vraiment un peu, on va dire, foyer de la horde primordiale. Il y a une cuisine aussi. On fait nous-mêmes la cuisine. C'est un poste budgétaire important. Mais on voulait justement qu'il y ait des odeurs de cuisine, qu'il y ait un endroit où la cuisine se passe.
Donc on sort.
Donc là, on se trouve dans le jardin de la clinique, qui est pas immensément grand, mais qui permet d'être dégagé. Donc là, il y a un endroit où des fois les gens, jouent aux boules. Il y a une tonnelle qui permet de se protéger un petit peu des intempéries quand on est fumeur ou du soleil. Et d'ailleurs, quand il commence à faire un petit peu plus chaud, ben voilà, après les gens, j'allais dire, mangent dehors. Donc c'est vrai que c'est aussi très très agréable.
Voilà. Avec une vue vraiment magnifique.
Alors, on a une vue absolument superbe, mais c'est sûr que bon, on pourrait se dire, ah, c'est super, il y a la vue et tout ça, mais c'est vrai que voilà, on est dans le sud, là il fait beau, il y a un petit peu d'air qui souffle et tout ça, mais franchement, la cure, c'est vraiment pas, j'allais dire, des vacances. Hein. C'est vrai que la première semaine, les gens vont pouvoir se poser, mais la cure, c'est quelque chose de très très prenant. Il y a très très peu d'endroits où les gens peuvent s'isoler. Alors, à la fois, ça fait partie d'une des grandes richesses de la cure, et à la fois, bah, sur 29 jours, c'est quelque chose de très très intense et c'est pas toujours facile pour eux.
Ça commence à sentir bon.
Oui, ça commence à sentir bon. Voilà, moi, je vais pas tarder à vous laisser parce que j'ai fait la nuit, donc là, je vais rentrer chez moi. Mais c'est vrai que les odeurs de cuisine pousseraient à rester, effectivement. C'est un endroit où il y a de la vie, c'est un endroit où on sent la cuisine, c'est un endroit où on sent qu'il se passe des choses. Et ça, c'est vrai que pour quelqu'un, justement, qui se sentait coupé complètement des autres, en train de boire tout seul dans son coin, qui éventuellement n'osait même pas aller au bar ou quoi que ce soit, et qui était vraiment terré chez lui avec sa bouteille, sachant d'un côté qu'il ne pouvait pas faire autrement, et d'un autre côté qu'il se vivait comme la pire des créatures parce qu'il se sentait faible, pervers, enfin tout ce qu'on peut entendre sur les alcooliques, ben, souvent les premières personnes à le véhiculer, c'est les alcooliques eux-mêmes. Hein, ils se sentent vraiment dans une énorme difficulté et dans une énorme honte. Hein, donc ils pensent qu'ils n'ont pas de volonté, qu'ils sont bons à rien, que de toute façon qui a bu boira, enfin tout ce qu'on peut entendre. Ben voilà, nous ici on leur propose une autre vision des choses. Oui, effectivement, on peut se sortir du problème alcool, c'est pas quelque chose qui est hors de portée. Et ça se fait justement avec tout ce côté relationnel et ces odeurs de cuisine et les discussions à table, etc. etc. C'est un endroit où il y a de la vie humaine.
Rien, rien.
Ça enregistre.
Ça va? Ouais. T'es sûr que ça va? Ah oui?
Il y a quoi à manger alors ce midi?
Couscous.
Couscous?
Maison.
Wow. Maison.
Je les ai vu couper la viande et tout. Hein. Non, la nourriture est super bonne. Hein. Ils font vraiment un effort. Et je pense que c'est, enfin, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on réapprenne, puisqu'en fait, quand tu bois, tu ne manges plus.
Vous vous appelez comment?
Emmanuel.
Vous buviez quoi?
De la bière et du vin rosé, caché sous mon lit. Ah bah parce que je veux pas quand même que mes enfants aient des bières pleines de frigo et je me cachais. Tu te caches de toute façon. J'ai commencé très jeune.
C'est quel âge très jeune?
14 ans. Famille de pieds noirs. J'avais pas le droit de sortir. Non, bah je fumais du cannabis quoi. J'ai commencé comme ça quoi. Quand j'étais petite. Et un jour, je suis allée un peu plus grande manger chez des amis. Et on passe à table, tu vois. Et puis, je vois de l'eau et je vois pas de vin. Et ben, j'avais jamais vu une table sans bouteille de vin. Jamais, ça m'était jamais arrivé. J'ai quand même ma tante qui est alcoolique, mon oncle en est mort. Et puis, bon après c'est compliqué, mais je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique parce que j'ai fait une tentative de suicide. Donc ils m'ont forcément sevrée. Si je suis sortie avec des plaquettes de médicaments comme ça. Et puis j'ai recommencé à boire. Quoi. Ça sert à rien leur truc. J'étais comme un zombie, je pouvais rien faire. Donc petit à petit, j'ai viré tous ces trucs parce que j'y crois pas. Je crois pas qu'on puisse soigner des alcooliques avec des médicaments. Quoi. Vraiment, j'y crois pas du tout. On a essayé plein. Non, c'est nul, ça marche pas, quoi. Je vais aller fumer ma cigarette.
Donc, Bruno Pérez, je suis psychologue et je suis directeur du Calme à Cabrice.
Au 19e siècle, l'alcool, c'était considéré comme un vice. Et puis ensuite, c'était considéré comme un comportement déviant, et puis une maladie. On en est où, en fait de...
Officiellement, on en est à « c'est une addiction ». Ça, c'est la version officielle, reconnue, dont tout le monde parle et que tout le monde utilise. Si vous voulez mon avis personnel... Je dirais qu'il reste quand même, derrière ces notions-là, qu'on le veuille ou non, et on s'en défend bien entendu, des petites traces quand même de jugement moral. Alors bien sûr, on ne dit plus le mot vice, loin de là, mais il y a quand même des notions d'abus, abuseur, des notions de conduite déviante. Chasser la morale, elle revient quand même au galop. Quand même, il exagère. Hein. On se conduit pas comme ça. Hein. Il faut contrôler quand même ces choses-là. Hein.
Donc c'est-à-dire que principalement on s'occupe de redresser des comportements déviants
Et oui, et hélas, c'est souvent comme ça que ça se fait de fait. Quand on ne s'intéresse qu'à la conduite et au comportement, effectivement, on est dans le changement de la conduite, on n'est pas dans le « pourquoi tu souffres ?» et « comment je peux t'aider à ne plus souffrir ?» Pendant des années, en gros les années 60 et début des années 70, et même encore jusqu'à la fin des années 70, quand je dis « on », ce n'était pas du tout l'équipe qui allait devenir l'équipe du calme, mais les établissements traditionnels qui prenaient en charge des alcooliques, en fait, essayaient de les déconditionner à l'alcool. C'est ce qu'on appelait les cures de dégoût. Donc les gens étaient alignés dans les hôpitaux avec une espèce de bassine et on leur demandait « qu'est-ce que vous aimez boire ?» Alors ils disaient par exemple « ben moi c'est du vin rouge ». Ok, alors on leur donnait à boire 2-3 litres de vin rouge en bouteille plastique dégoûtant et on leur faisait une piqûre d'apomorphine dans la cuisse et bouaf, ils vomissaient tout ça et on leur refaisait boire, revomir. Donc en sortant de l'hôpital, en général, ils étaient vraiment dégoûtés du vin rouge, donc ils passaient à la bière par exemple. C'était une belle réussite, quoi. Donc, on était vraiment dans une démarche de déconditionnement à l'alcool, ce qui est une démarche qu'aujourd'hui, on appellerait archaïque. Il en reste des petites traces encore aujourd'hui, avec un médicament, enfin, du moins, une substance qui, à l'époque des années 70, était très utilisée, qui s'appelle l'Espéral, qui est un médicament qu'on prend tous les jours, c'est une espèce de gros cachet d'aspirine, et quand la personne consomme de l'alcool après avoir pris son cachet, elle a une réaction très désagréable, le cœur qui tape, la transpiration, un malaise, se sent pas bien, et donc la personne va se retenir de boire par peur de la réaction désagréable. Résultat, ben, quand elle veut reboire, elle arrête de prendre le comprimé et elle peut reboire. Dans certains cas, alors on le fait plus vraiment en France, mais ça existe dans certains pays limitrophes, on fait ce qu'on appelle un implant d'espéral. Donc on fait une petite ouverture sous la peau dans l'aine, là, et on glisse 6 cachets, on recoue, et la personne ne peut plus consommer pendant 6 mois. Quand ça marche, parce qu'en général, la personne, donc déjà, quand ça marche, elle est prisonnière de son cachet intérieur, de son gendarme intérieur pendant 6 mois, vous imaginez la galère, mais très souvent ça marche pas parce que les cachets par système de défense sont enrobés de graisse, et donc ça fonctionne plus. Et dans certains cas, comme ça marche, les patients ayant très envie de reboire, ils prennent un canif, ils ouvrent la plaie, ça s'infecte, c'est une horreur. Donc ça, c'est interdit en France aujourd'hui. Mais la voix par la bouche, ça existe encore aujourd'hui.
Donc si j'ai bien compris, il y a deux grands mouvements, les thérapies comportementales et les thérapies institutionnelles.
Oui, on peut dire comme ça. Le grand mouvement, si on dit grand au sens du nombre de gens qui pratiquent, le mouvement dominant est très clairement médico-comportemental. Ça, c'est quand même le mouvement dominant. On essaie d'aider les gens à sortir de leur addiction. Voilà. Et puis le courant minoritaire, disons en gros de thérapie institutionnelle, on essaie tout simplement d'aider les gens à aller dans les directions où ils souhaitent aller, vers un mieux-être. Donc la non-consommation d'alcool sera alors une conséquence de leur mieux-être, et non pas l'abstinence comme objectif.
L'hôpital de Bicêtre est aujourd'hui à la tête de la lutte contre les dangers toujours graves de l'alcoolisme.
Actualité française.
L'assistance publique y a créé un service spécialisé de désintoxication.
9 janvier 1957.
Assuré de toutes les garanties de discrétion nécessaires, le malade, car l'alcoolique est un malade grave, peut y trouver en 15 jours d'hospitalisation, dans les conditions de séjour prévues par la Sécurité sociale, un résultat tout à fait satisfaisant. L'alcool est d'abord administré par piqûre, à dose dégressive, pour éviter le risque de sevrage brutal. Puis, avec l'apomorphine et l'antabus, on crée un réflexe conditionné de répulsion, et le malade est parfaitement dégoûté des boissons alcoolisées après le traitement. Convalescent, il ne sera pas abandonné. Un service social s'occupera de lui après son séjour à l'hôpital.
C'est la première fois que vous faites une cure ici ?
C'est la deuxième. La première que j'ai faite, c'est ici. C'est ici, et la deuxième, justement, comme elle ne m'avait plus, ben, je suis revenue ici. Déjà, de faire une cure, franchement, c'est un grand pas, c'est très très dur. Pour nous, pour ceux qu'on a laissés derrière nous. Mais bon, il faut se dire que voilà, c'est pour se soigner, et on n'est pas fou. On est juste tombé dans un piège infini. Et heureusement que ça se finit grâce à ces cures-là. C'est des gens qui sont très accueillants, qui prennent soin de toi, qui t'écoutent. Puis ils ne sont pas tout le temps derrière toi, tu es quand même libre.
Non, on est libre.
On peut prendre le soleil, on mange bien. Et c'est ça qui est bien, quoi. On n'est pas juste là pour te donner des cachetons et te dire va te calmer, tu nous fatigues. Moi, juste les 2 jours que j'ai passés, pour moi, ça a été une éternité et ça a été un cauchemar, quoi.
En hôpital psychiatrique ?
Ouais.
C'était où ?
Sur Digne. Je suis rentrée parce que j'avais 3 grammes d'alcool. J'avais 3 grammes d'alcool, les ambulances sont venues me chercher, les pompiers. Même les flics qui sont venus parce que je voulais pas partir. Donc tu commences à être agressif. Et puis finalement, voilà, ils m'ont fait rentrer de force, quoi.
Pourquoi vous avez commencé ?
Parce que mon père est alcoolique. Bon, il a arrêté, là, depuis 2 ans. Donc j'ai essayé une fois, j'ai bu une bière. Ça m'a plu. Et aller une deuxième, ça m'a plu. Et je travaillais plus, donc du coup, ben, je prenais ça comme tranquillisant, quoi. Et du coup, je me suis rendu compte que voilà, je devenais comme mon père. Ça fait 7 ans maintenant. Hein. Donc, j'ai arrêté la bière. Hein. C'était trop léger après. C'était du Coca Light après. Du rhum. Il y en a, ils arrivent à boire à table comme ça, et après s'arrêter, juste pour l'apéro. Mais nous, s'il ne fallait pas tous les jours, ben. C'était pas bien. Ouais, dès le matin, tu te lèves, même la nuit, tu penses, demain, il faut que j'achète ma bouteille. Ouais. C'est là que tu te dis, ça a plu. Et même pour rechercher du boulot, c'est difficile parce que t'es déjà catalogué.
L'étiquette.
Donc, c'est vrai que là, tu te dis, il faut vraiment que je fasse quelque chose, quoi. Bon, on sera toujours catalogué. Hein. Mais au moins, on leur a dit, eh ben, je suis allée me faire soigner. On a eu le courage. On a fait vraiment le grand pas, quoi.
Vous avez des enfants ?
Ouais, j'en ai 2. Voilà, deux voilà. Petits garçons. Ça, 4 ans et demi, 5 ans. C'est pour ça que ça fait de la peine. Je me dis, c'est pour moi et pour eux, justement. Bon, moi, je suis pas agressive. Mais moins de patience, quoi. Et trop, je les laisse trop faire ce qu'ils veulent. Voilà, mais par contre, je prends très, très soin d'eux, quoi. Très, très soin d'eux. Et je m'oublie, moi, d'ailleurs. C'est pour ça. On va être les plus forts, je te le dis. On va ressortir déjà. On aura pris un peu des kilos. On aura oublié ce putain de bouteille. Je préfère, bon, gros mot, hein, on s'en fout. C'est vraiment de la merde. Donc voilà, ça vaut mieux s'en débarrasser. Boire de l'eau avec du citron, c'est bien, ça donne la vitamine.
Tout est calme. Trop. Les rires s'éloignent en écho. Les mots s'éteignent dans les gorges. Humanité sort du dico. Et l'audace a éteint ses forges. Les cœurs ne font plus de bruit. Et s'accélèrent dans le silence. Ça s'inquiète tant que ça fuit. Dans une douteuse cadence. Le monde est flou et lâche la rampe. On n'entend rien qu'un souffle qui peine. Et si contre le vertige on rampe, on goûte à la source de la haine. À les écouter chuchoter, tous ceux qui se font leur beurre de la peur. On fixe demain les yeux fermés, la vie se vide. Pleu à pleurs. C'est calme. Trop. Un œil écarte le rideau. Paraît qu'il paraît. Le voisin a toujours bon dos pour nier sa propre lâcheté. Cette petite musique de mort qui ronronne dedans ma télé me crache qu'il aura toujours tort, celui qui danse de côté. Si les professionnels de la trouille parviennent à nous rallier tremblants et qu'on condamne la débrouille au nom d'un dangereux ordre puant, il y aura de la merde dans nos urnes. Et ce silence, on se le mangera, journée nocturne et chemise brune, j'ai peur. Mais faut pas que ça se voie. Tout est calme. Trop.
Non.
Oui, très bien.
Je préfère.
Vous, vous connaissez l'endroit ici, le calme ?
Oh oui.
Oh oui, je connais l'endroit au calme, puisque j'y suis venu il y a 16 ans. Je m'appelle Daniel Ledan, j'ai 67 ans, je suis à la retraite, je suis l'ancien directeur du service des sports à la ville d'Antibes, je suis un ancien international de basket, j'ai joué en équipe de France pendant 10 ans, j'ai joué en Pro A, j'ai été capitaine de l'équipe de France. Ça, c'est le beau côté de la chose, mais les circonstances de la vie ont fait que je suis aussi un ancien dépendant de l'alcool, pour dire tout simplement un ancien alcoolique. Et à un certain moment de ma vie, je buvais beaucoup, plus que beaucoup, et encore un peu plus que ça. C'est-à-dire que j'étais pratiquement sous tous les jours. Et voilà. Et à un certain moment, il y a eu un petit déclic. J'ai dit, Daniel, il n'y a que deux solutions. C'est où tu continues à boire et tu vas au trou. C'est-à-dire c'est une sorte de suicide organisé. Ou tu te soignes. Mais si tu te soignes, il faut que tu prennes les choses vraiment sérieusement. Donc je suis venu ici il y a 16 ans maintenant. J'ai fait une cure. Et puis, je vais très bien, même plus que très bien. Je suis en forme. Pour moi, c'est du passé. Mais de par ma formation de sportif, je sais, moi, que dans les milieux sportifs, contrairement à ce qu'on pourrait dire, dans les milieux sportifs, on boit beaucoup. Ça se voit moins, mais on boit. Et moi, ça en est la cause, hein, j'en suis la preuve. Hein. Et donc, j'interviens, je fais beaucoup de prévention dans les clubs sportifs. Et le thème de mon intervention préventive, ça s'appelle « Attention à la troisième mi-temps ». Parce que la troisième mi-temps a une grosse importance par la suite, en fin de carrière. Lorsqu'on est dans le milieu sportif, on fait la troisième mi-temps, le lendemain on va courir, on élimine et ainsi de suite. Mais on boit beaucoup dans cette troisième mi-temps. Et le cerveau enregistre. Enregistre que la troisième mi-temps est un moment convivial et ainsi de suite. Et puis un jour... Ce qui m'est arrivé à moi, un jour vous avez un pépin dans votre vie, bon moi c'est personnel, j'ai perdu mon fils dans un accident de moto, et le cerveau, on est mal, et le cerveau se souvient que lorsque l'on faisait la fête, la troisième mi-temps, c'était un moment convivial et tout, et il y a un déclic, on va chercher le médicament qui est l'alcool. La première partie, ça devient une dépendance psychologique. On dit « Ah, vivement samedi que je boive un coup, vivement mercredi que je boive un coup, vivement qu'il y ait une fête dans la famille pour qu'on puisse boire un coup. » Ça, c'est psychologique. Et un beau jour, on ne s'en aperçoit pas, mais on devient dépendant physiquement. Et là, lorsqu'on est dépendant physiquement, c'est la catastrophe, c'est la descente aux enfers. On est mal tous les matins, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Et pour s'en sortir, c'est pas facile. Je peux vous dire qu'une maison comme celle-là, c'est unique. Et quand j'ai appris qu'il y allait avoir des difficultés, je peux vous dire que moi qui suis un ancien administratif, j'ai 40 ans de mairie, j'ai côtoyé les politiques, ainsi de suite, j'ai écrit partout. Il faut se battre pour garder cette structure. Parce que si on ne garde pas ces structures, certes, ils iront ailleurs. Ce n'est pas un problème. Ils iront ailleurs. Mais il y aura peut-être moins de réussite. Et puis, ça fera quand même une structure en moins. Et ça, c'est anormal. On supprime une structure soignante efficace. Donc là, on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas. C'est anormal. S'il faut descendre dans la rue avec les pancartes, je serai le premier à le faire.
Donc Bruno Pérez, je suis psychologue et je suis directeur du Calme à Cabris.
Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? La clinique est menacée, c'est ça ?
Eh bien, faute de moyens financiers, la clinique, le calme de Cabris, hein, parce que l'établissement d'Illy est pas du tout. Il n'y a pas de ce danger, tout simplement parce qu'il n'y a pas le même tarif. Il n'y a pas le même prix de journée. Donc nous fonctionnons comme tous les établissements, c'est-à-dire qu'en fait les gens qui viennent chez nous ne déboursent pas un centime. Quand ils sont partis, on envoie la facture de 80% à la sécurité sociale, 20% mutuelle. Le problème, c'est que les tarifs que nous avons sont des tarifs de maisons de convalescence. Alors que nous sommes un établissement hautement spécialisé, nous pratiquons le sevrage comme un service de médecine. Mais pour faire tout ça, il faut beaucoup de monde et nous avons un tarif qui ne nous permet pas de payer tout ce monde-là. Alors on le paye sur le même tarif qu'une maison de convalescence où les gens ne feraient presque, pas rien du tout, mais presque rien à longueur de journée par rapport à ce que nous leur proposons qui est très intensif. En fait, si le calme ferme à la fin de cette année, nos 600 patients par an, 600 malades qui viennent chez nous, iront à l'hôpital pour un tarif trois fois plus élevé. Pour vous donner un exemple très concret, une cure exactement comme la nôtre dans les deux établissements psychiatriques publics que nous avons formés, à La Rochelle et à Sarreguemines, coûte 14 000 euros à la Sécu. Nous, on coûte 3 007. Donc, ça va coûter beaucoup plus cher à la sécurité sociale, parce qu'il y a une espèce de courant de pensée qui fait croire aujourd'hui que pour faire des économies, il faut fermer des établissements. Alors qu'on ferme un établissement qui fonctionne mal et qui coûte très cher, ça peut se comprendre. Nous, on fonctionne bien. Et on coûte trois fois moins cher. On est vexé en quelque sorte, quoi. Tout le monde nous dit qu'on fait du bon boulot, mais on voit pas le résultat, quoi. En ressources financières, si vous voulez, et je dirais même d'une certaine manière en reconnaissance de la part des structures, des tutelles. Si on n'était pas en coopérative, il y a longtemps qu'il y aurait eu des grèves, des démissions, des abandons de poste, quoi, parce qu'il y en a assez, quoi. Mais comme on est en coopérative, justement, ben on s'entraîne, on se serre les coudes, allez les gars, on tient le coup encore, allez, on se bat, quoi. Mais ça peut pas durer éternellement. Il y a 30 salaires en danger. Il y a une quinzaine d'années, j'avais envoyé, je sais plus le nom du ministre de l'époque, un dossier qui s'appelait « La Sécu est malade, guérissons l'alcoolisme ». Et je montrais par A plus B avec tous les chiffres officiels de l'INSEE, de la santé et tout, combien coûtait un malade alcoolique, combien coûtait une cure dans un calme, parce que ça fait longtemps que le problème existe, hein. Et puis combien coûtait, même malgré le fait que nous ayons des rechutes, etc. Et je comptais aussi combien coûterait, j'estimais, combien coûterait en moins les guérisons. Donc la réduction du nombre d'arrêts de travail, de maladies, etc., etc. Donc il y avait une démonstration qu'en fait, un établissement calme ferait faire des économies énormes à la sécurité sociale. Et le ministre de l'époque avait lu ce dossier en disant « c'est très intéressant, oh là là, c'est très intéressant ». Et rien n'a changé.
Moi, c'est Henri.
Voilà. Moi, c'est Stéphane. Non, c'est vrai. On veut passer un message
à une personne particulièrement.
Au groupe des Rouges qui sont partis hier, mardi. Et on voudrait faire un petit coucou et leur souhaiter courage.
Ouais, c'est courage ça et qu'ils ne retombent pas là-dedans.
Voilà.
Et particulièrement à une demoiselle qui était ici, très sympa.
Très charmante, mignonne,
et qui a fait craquer plus de un.
Qui s'appelait comment?
Karima.
Voilà, Karima. On a retrouvé le sourire parce qu'elle nous a apporté beaucoup.
Et... Tous les matins, quand elle sortait, c'était un deuxième rayon de soleil. Et puis, on lui souhaite courage et une deuxième belle vie.
Et on pense à elle en espérant qu'elle nous téléphonera.
Et nous n'oublie pas, surtout moi.
Et mon cœur saigne.
Vous êtes ici depuis combien de temps?
Trois semaines,
ça fait. Dans une semaine, on s'en va. On est presque guéri.
Et vous avez fait d'autres cures qu'ici ou c'est la première ici?
Première.
Moi, c'est la troisième en deux ans parce que je veux vraiment m'en sortir. J'ai 42 ans et là, je crois que c'est la bonne. Je suis revenu sur Terre et c'est la bonne. Et je passe le bonjour à Mallory, mon amour que j'aime depuis toujours. Elle a 5 ans.
Il se soigne pour elle.
Voilà, parce que je veux la garder.
Et oui.
Parce que je suis séparé, que si je continue à boire comme ça, à me déchirer la tête tous les soirs, parce que des fois on n'est pas bien dans ce monde, et ben, on risque de tout perdre, que ce soit famille, que ce soit enfant, que ce soit tout. Quoi. Il faut réaliser que la vie, elle est autre qu'une bouteille de whisky. Elle est plus jolie en regardant des fleurs, la forêt, les arbres, les enfants, tout, quoi, la famille. Voilà.
Merci Stéphane et Henri, merci Yves, Emmanuel, Malika, Patrick, Franck, Jean-Marie, Olivia, Daniel Ledan et toute l'équipe du Calme de Cabris. C'était dans Vivre, il y a Ivre, deuxième volet du reportage de Charlotte Perry à Cabris, l'association de soutien au Calme de Cabris. C'est Ascalme Cabris. Si vous tapez Calme et Cabris, vous trouvez très facilement sur Internet les moyens de soutenir ce centre. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas. Si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis, vous pouvez nous retrouver aussi sur notre page Facebook. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Guillaume Roux. Bertrand Chumeton et Franck Aderer ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. Chef du répondeur attend vos messages sur le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
J'ai été greffée et je suis persuadée que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un qui était favorable au don d'organes a pris le temps d'en parler à ses proches. Si chacun voulait bien dire sa position claire à ses proches, beaucoup plus de malades pourraient s'en sortir.
Don d'organes, pour sauver des vies, il faut l'avoir dit. Plus d'informations sur dondorganes.fr, un site de l'Agence de la biomédecine.
France Inter et le Théâtre du Nord à Lille présentent du 22 au 28 juin La bonne âme du Sichuan de Bertolt Brecht dans la mise en scène de Stuart Side. Stuart Side choisit cette fable dialectique, foisonnante et généreuse pour accompagner ses élèves dans leur premier spectacle professionnel. Retrouvez La bonne âme du Sichuan du 22 au 28 juin au Théâtre du Nord à Lille, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire de l'Atlas des civilisations 2012, un hors-série Le Monde de la Vie. Riche de 200 cartes originales et des analyses des meilleurs experts, l'Atlas revient sur 6000 ans d'histoire des civilisations pour comprendre le présent à la lumière du passé. Cette nouvelle édition, en incluant les derniers événements majeurs, souligne à quel point nous passons d'un monde de civilisation à une civilisation monde. L'Atlas des civilisations 2012, un hors-série Le Monde de la Vie, à lire en ce moment et à retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Libye, l'espoir ou le chaos, c'est à partir de lundi dans la base où j'y suis. Toute la semaine, on la passera en Libye à la veille des élections dans ce pays troublé. Il est 16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour la base où j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Nicolas Théillard. Salut!
La fête de la musique fortement compromise sur le nord-est du pays. La 31e édition qui doit se tenir ce soir, menacée par les violents orages qui ont commencé à s'abattre sur une trentaine de départements situés au-dessus d'une zone allant du Havre à Besançon, en passant par Orléans et Dijon. Météo France met en garde contre le risque d'orages, mais aussi de fortes rafales de vent et d'averses de grêle. Conséquence, les concerts prévus dans plusieurs villes sont annulés. C'est déjà le cas à Strasbourg ou à Mulhouse dans l'Est, mais aussi à Lille où près d'un millier d'élèves de collège et de primaire devaient par exemple jouer ensemble cet après-midi, concert préparé depuis plusieurs mois et finalement annulé au grand dam d'Isabelle Delcroix qui avait coordonné le projet.
Grosse déception quand même, surtout pour les enfants qui avaient travaillé toute l'année. En plus, cette année, on avait innové un petit peu avec un flash mob, avec des classes chorales et puis des classes orchestres. On avait donc pensé ce rassemblement avec tous les enfants autour d'un chant commun mis en chorégraphie, donc qui s'appelle Dorémy de la Mélodie du Bonheur. L'idéal, c'était ce gros rassemblement, puisque ici, on a voulu vraiment renouveler avec l'esprit même de la fête de la musique. Donc, on vient pour chanter. Il y a pas de grosse structure de sonorisation, c'est vraiment, on se met dans un petit coin, on chante, les passants s'arrêtent, ils nous écoutent, et puis il y a un autre groupe qui passe, vraiment dans l'esprit des premières années de la fête de la musique. Donc tout un projet qui tombe à l'eau.
Et c'est le cas de le dire. Autre avis de tempête, c'est au sein d'Air France. La compagnie aérienne a dévoilé ce matin son plan de réduction des effectifs. Résultat, plus de 5000 suppressions de postes prévues d'ici fin 2013. Et si la direction assure qu'il n'y aura pas de licenciement, le plan de départ volontaire qu'elle propose ne semble pas satisfaire les syndicats. Le bras de fer s'annonce difficile car Air France prévient, si ces accords ne sont pas signés, des licenciements sont possibles après 2013. En clair, c'est ça ou rien. C'est l'heure du choix pour les députés socialistes réunis réunis à l'Assemblée. Ils votent en ce moment même pour désigner leur candidat à la présidence de l'Assemblée. Une place au perchoir que convoitent Elisabeth Guigou, Jean Glavany, Daniel Vaillant et Claude Bartolone qui tenaient la corde aux dernières nouvelles. Les députés PS qui ont par ailleurs élu Bruno Leroux comme président de leur groupe parlementaire. Il était le seul candidat en lice. Désormais pourvu d'un gouvernement, la Grèce va tenter de renégocier avec l'Europe et le FMI les conditions de son plan de redressement. Athènes devrait demander 2 ans de plus à ses bailleurs de fonds pour assainir ses comptes, c'est-à-dire jusqu'à fin 2016. L'objectif annoncé est de réviser le plan de rigueur sans risquer la sortie de l'euro. Enfin, en Norvège, l'internement psychiatrique requis par le parquet d'Oslo contre Anders Behring Breivik, l'auteur de la tuerie d'Utøya qui avait coûté la vie à 77 personnes l'été dernier, est jugé depuis plusieurs semaines et le parquet a donc estimé que sa santé mentale le rendait pénalement irresponsable. Si les juges l'estimaient responsable de ses actes, le parquet estime alors que Breivik devrait être condamné à 21 ans de rétention de sûreté, une peine pouvant être prolongée en fonction de sa dangerosité. Verdict attendu le 20 juillet ou le 24 août.
Quand la musique donne, Didier Varro.
Rock, musique électro, techno,
chanson, rap,
la musique d'aujourd'hui en fait, de la musique moderne.
Quand la musique donne tout ce qu'elle a, comme chant des possibles, vous avez une grande chance de retrouver sur votre chemin la chanteuse Camille. Et de la surprendre en conversation avec Mina Tindall à propos de Paris en chanson, de la Tarentelle ou même de Johnny Hallyday.
Quand la musique donne, demain sur France Inter, à partir de 16h. France Inter, la différence.
Jour de fête de la musique. En attendant les improvisations ce soir, Frédéric Lodéon, on va faire du classique pour l'instant.
Oui, on va se débrouiller à l'intérieur pour l'instant.
Au sec.
Une heure de plaisir, j'espère, assez vif quand même.
La mélodie du bonheur.
Oui, par exemple. Merci Nicolas Taillard.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous, mais on va pas se laisser faire par ce mauvais temps, ce temps qui essaye d'éteindre la musique. Voilà, on en a 55 minutes garanties, avec la découverte par exemple d'un compositeur italien assez peu fameux, Francesco Pasquale Ricci. Quand je dis peu fameux, c'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il est peu connu. Et il est né en 1732 dans la ville de Côme, sur le magnifique lac de Côme au nord de l'Italie. Il a étudié les lettres, la musique aussi à Milan, et puis après ça il a eu une belle carrière, passé par l'Allemagne en tant que chanteur, organiste, claveciniste, violoniste, vous voyez, quelqu'un de très très doué pour toutes sortes de disciplines. Donc on l'a accueilli particulièrement bien à Londres et puis à La Haye. À La Haye, il a fait des séjours et il est resté en mémoire. Et c'est pour ça que c'est un orchestre néerlandais qu'on va entendre. Il nous propose une symphonia, la première symphonia en ré majeur de Francesco Pasquale Ricci, presto. Thank you. conversation de hautbois et de corps à la fin du presto de cette première symphonie en ré majeur de Francesco Pasquale Ricci, interprétée par l'orchestre de chambre de la radio des Pays-Bas, dirigé par Jan Willem de Vrient. Musique joyeuse encore avec Francis Poulenc, chez qui la météo mentale n'était pas toujours au beau fixe. Pourtant, on sait qu'il était souvent déprimé, notre cher compositeur français, puis avec des moments de joie, quelquefois un peu forcés, recherchés, à l'aide de fêtes un peu artificielles, de quelques coupes de champagne, et puis voilà, de beaucoup de pétillants, mais pétillants un peu, quelquefois un peu forcés, un peu recherchés, dans des endroits où il n'est pas forcément présent, voire des endroits que la morale réprouve. Peu importe, Francis Poulenc, qu'on l'adore pour son côté gouailleur, moine ou voyou, a dit un commentateur, c'est exactement ça. Là, il était très en forme quand il a écrit le final Allegro con fuoco de sa sonate pour clarinette et piano.